France Culture.
Des inquiétudes exprimées depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant par les élus locaux et les associations. Des inquiétudes concernant le travail associatif, le tissu et le lien social, alors que les emplois aidés semblent voués à disparaître selon plusieurs textes budgétaires en préparation. Alors au-delà, quel avenir pour la politique de la ville aujourd'hui, dont le gouvernement précédent n'avait pas dédié de ministère? Quelles ambitions? Quels résultats de mi-parcours un an et demi après les grandes annonces qui ont suivi les révoltes liées à la mort de Naël, tué par un policier? Pour en discuter, pour en débattre même ce soir, deux invités. Juliette Méadel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre déléguée chargée de la ville, vous êtes élue locale à Montrouge également, dans les Hauts-de-Seine. Face à vous, Gilles Leproux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire PCF d'Allonne dans la Sarthe depuis 2008. Vous êtes vice-président du Mans Métropole en charge de la politique de la ville et président de l'association des maires villes et banlieues de France. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et une première question simple et complexe à la fois, Juliette Méadel. Qu'est-ce que la politique de la ville? C'est compliqué de le comprendre car c'est une politique à la croisée peut-être d'enjeux multiples, économiques, sociaux, sécuritaires, culturels, éducatifs, urbains. J'en passe énormément. C'est aussi une politique qui rassemble énormément d'acteurs, hein, des acteurs locaux, l'État, des associations. Quelle est votre définition, votre vision de la politique de la ville?
En fait, c'est assez simple. C'est une politique de soutien aux habitants les plus pauvres des villes, mais pas forcément des grosses villes. Quand on entend politique de la ville, on s'imagine tout de suite les grands quartiers. Non, ça peut aussi être des petites villes de 5000 habitants qui sont dans des zones rurales. Donc c'est le soutien aux plus pauvres. Et évidemment, en matière de politique de soutien à la pauvreté, ça fait intervenir tout le monde. Vous l'avez dit, les communes, l'État, les CAF, les opérateurs publics et surtout les secteurs. Parce que pour sortir de la pauvreté, il faut s'occuper du logement, du bâti, de l'éducation, de la santé, etc. Donc, c'est une politique qui intervient sur tous ces sujets-là. Et en plus, qui fait intervenir l'État et les maires, qui sont le rouage indispensable pour suivre les habitants au plus près de leurs besoins.
Quel est le rôle de l'État pour vous dans cette politique? C'est d'abord un rôle d'investissement, un rôle de coordination, l'articulation entre l'un et l'autre. Comment vous percevez les choses?
L'État doit veiller, doit impulser. C'est-à-dire qu'il faut que les ministres de l'Éducation, de la Sécurité, de la Santé, tous les ministres qui s'occupent du service public aient une attention soutenue pour les publics qui vivent en quartier politique de la ville, c'est-à-dire les 6 millions de personnes qui vivent dans ces 1600 quartiers. Et ça veut dire qu'ils doivent adapter, ils doivent faire plus, parce qu'il faut faire plus en République française, pour ceux qui ont moins, si on veut, l'égalité d'accès aux services publics partout sur le territoire. Donc c'est ça le rôle de l'État. Et en plus de tout ça, donc moi je dois impulser, stimuler, prendre par la main mes collègues en leur disant « Regarde, là, il faut que tu fasses plus sur l'emploi, pour la sécurité. Regarde, là, il faut faire plus pour ces quartiers. » Mais en plus de tout ça, moi j'ai un budget dédié, ça s'appelle ça le programme 147, d'environ 600 millions d'euros, et avec lesquels j'aide les associations, notamment les adultes relais, on va en parler, mais pas que les associations. Il y a aussi un second budget qui est le budget de l'ANRU, c'est la rénovation urbaine, et ça c'est 12 milliards d'euros par an, et ça c'est pour construire le bâti avec le ministre du Logement, où on est sur des grands projets. Et on construit aussi, évidemment, avec les élus locaux et les métropoles.
On reviendra, bien sûr, sur ces deux sujets. Mais Gilles Leproux, votre vision, peut-être, de la politique de la ville. Vous m'avez dit, avant de commencer cette émission, qu'il fallait expliquer ce que c'était que ce machin, justement.
Oui, parce que lorsqu'on pense, et quand un citoyen entend un habitant politique de la ville, il pense à la politique qui est mise en place par son équipe municipale, tout simplement, qu'il est élu. La politique de la ville, comme le dit Madame la Ministre, c'est permettre, dans les territoires où les habitants vivent beaucoup d'inégalités de toutes sortes, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'accès au sport, à la culture, crée les conditions d'être garant de l'égalité républicaine. C'est quelque chose, un élément très important, et c'est une politique qui a besoin de l'État, qui est garant de cette égalité républicaine, mais également qui est une politique qui est coélaborée avec beaucoup de partenaires. Alors évidemment, l'État, les collectivités, l'État national, l'État local, les collectivités, mais également les associations, mais également les habitants. Parce que les habitants, c'est les meilleurs experts dans leur territoire. C'est eux qui, souvent, Madame la Ministre est venue à Allonne en début d'année, elle a rencontré le Conseil citoyen, elle a rencontré des acteurs de la cité éducative. Ils sont très sensés. D'ailleurs, je pense qu'on les écouterait plus parfois, à tout niveau. on irait plus vite et on serait plus efficace dans des actions publiques. Parce que quand on voit aujourd'hui dans les territoires la crise de la politique, l'éloignement de la chose publique et politique, on a tout intérêt, si on veut que les trois beaux mots qui sont au frontaux de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, soient réellement des choses concrètes, eh bien on a vraiment intérêt d'écouter les habitants et d'être allocantés pour leur porter, pour leur permettre de s'émanciper.
Comment est-ce que vous expliquez, Gilles Leproux, que cette politique de la ville suscite année après année, décennie après décennie, tant de polémique. Est-ce que c'est l'écart entre les ambitions importantes que vous venez de déplier et les résultats peut-être parfois décevants, le manque de moyens aussi et d'ambition de certains responsables politiques dans ce domaine ?
Il y a plusieurs raisons. Vous savez, pour évaluer la politique de la ville, faut l'évaluer sur un temps long. Parce que les habitants dans nos quartiers prioritaires, ils bougent. Et ceux qui sont aujourd'hui dans les quartiers prioritaires, c'est pas ceux qui y étaient il y a 10 ans. Et souvent, ceux qui y étaient il y a 10 ans, ils ont réussi grâce à toutes les actions que nous avons menées en commun à évoluer dans leur vie, à trouver un emploi, à se former, à pouvoir avoir, d'accéder à un autre logement. Donc, ils vont dans d'autres communes et ils sont remplacés souvent par des habitants qui eux-mêmes sont encore plus en difficulté que celles qui remplacent. Vous voyez, donc, il faut les moyens. On entend parfois, il y a trop d'argent mis dans les quartiers prioritaires. Quand on ramène au nombre d'habitants ce qui vit dans nos quartiers, c'est pas vrai, c'est une erreur. Nos quartiers n'ont pas plus que les autres territoires. Ils ont même souvent moins. Parce que le droit commun, ce qu'on appelle, alors là encore un gros mot, là. Le droit commun, en gros, c'est l'action des différents ministères qui interviennent, l'éducation, la santé, etc. Et c'est pour ça que nous, on est très attachés, on le dit souvent aux différents ministres que nous rencontrons, la politique de la ville a d'efficacité que si le droit commun de l'ensemble des ministères est particulièrement engagé dans le territoire.
Juliette Méadel, est-ce que pour vous, vous regrettez parfois, et notamment dans l'histoire récente, que cette politique de la ville soit une politique de second plan ? Un seul exemple pour l'illustrer, le précédent gouvernement n'avait pas dédié de ministère à cette politique. La politique de la ville avait été rattachée au logement, à la rénovation urbaine. Comment est-ce que vous l'expliquez là aussi ?
Parce que c'est pas forcément une priorité à partir du moment où on estime que chacun des ministres en charge de son service public va faire le travail. Or, je pense que c'est une priorité la politique de la ville parce que ce sont des zones du territoire qui, pour certaines, n'offrent pas les services publics auxquels ont droit les habitants. Et ça, c'est insupportable en France, quand on se dit que quel que soit l'endroit où vous habitez, vous devez avoir accès à peu près aux mêmes services publics et qu'on sait que, par exemple, vous allez dans certains quartiers, vous n'avez même plus la possibilité d'y rentrer, par exemple à Marseille ou dans d'autres endroits. Et le fait que le citoyen,
quand les services publics sont partis également,
mais quand les services publics sont partis ou qu'on même peut plus rentrer, pourquoi? Parce que la sécurité n'est plus là. Donc c'était très important de qu'il y ait une volonté politique à nouveau. C'était le choix du président de la République et du Premier ministre pour recréer la politique de la ville. Mais j'ai envie de vous dire aussi que cette espèce de procès qu'on fait sur le manque d'efficacité de la politique de la ville, à mon avis, c'est un mauvais procès. D'abord, c'est très difficile d'évaluer une politique publique dans tous les domaines. Il faut des contrefactuels. Alors, qu'est-ce que c'est un contrefactuel ? Il aurait fallu évaluer ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de politique de la ville. Je vais vous donner un exemple. L'excellente mesure qui a été prise sous le premier quinquennat du président de la République sur le dédoublement des petites classes en REP et REP+, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre d'enfants en maternelle.
En REP, c'est les zones d'éducation prioritaire.
En zone d'éducation prioritaire, pardonnez-moi. Et donc, quand on fait ça, on sait que ça a des bons résultats parce que les enfants sont mieux encadrés et que dans les catégories les plus défavorisées, c'est très important. Sauf que ça met du temps. Et sauf que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est « Ah, les résultats sont pas aussi formidables que ce à quoi on s'attendait ». Mais sauf que la vraie raison, la vraie question, c'est si on l'avait pas fait, ça aurait été pire. Et c'est ça la difficulté d'évaluation de la politique de la ville. On lui demande plus que ce qu'on demande à toutes les autres politiques publiques, alors que vous parlez avec les élus locaux que vous avez là, et eux, ils peuvent vous dire, parce qu'ils le voient, et les préfets le voient aussi, que quand l'État est là, c'est quand même mieux que quand il n'est pas là. Quand il y a un adulte dans la pièce, un maire qui s'occupe de ses habitants, des crédits pour s'occuper des plus pauvres, c'est toujours mieux que quand il n'y a plus personne.
Je voudrais qu'on aborde un sujet qui a fait polémique ces dernières semaines, la question des emplois aidés. Sur cette question, l'État se désinvestit de plus en plus. Près de 5000 postes d'adultes relais, on va comprendre de quoi il s'agit, sont voués à disparaître progressivement. On écoute Anne-Sophie qui est adulte relais à Évry. Elle travaille pour la préfecture de l'Essonne.
C'était un dispositif qui a été mis en place par l'État et qui va aider les personnes à s'insérer ou se réinsérer, toutes les personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Mon poste, c'est responsable d'accès et du recours au droit. Donc, j'accompagne les personnes dans leurs démarches administratives. Aussi, régulièrement, je les accompagne directement dans les institutions, que ce soit à la préfecture, à la mairie, à la CAF. Je m'occupe aussi des dossiers des violences faites aux femmes. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est fracture numérique. Donc, j'essaye de mettre les personnes en autonomie sur l'outil informatique, en fait. L'État, enfin la préfecture, va verser 80% du salaire de l'adulte relais. Donc après, c'est à l'association ou à l'institution qui reçoit l'adulte relais de trouver le reste du financement. Donc généralement, ça se passe par des appels à projets ou des demandes de subventions.
Gilles Leproux, expliquez-nous peut-être même dans votre commune à quoi servent concrètement ces emplois aidés, ces adultes relais en l'occurrence, hein, parce qu'il s'agit quand même de personnes qui ont un emploi et qui font un travail d'intérêt général. À quoi servent-ils dans votre commune par exemple et qu'est-ce qui va vous être retiré lorsque ces investissements vont être réduits ?
Alors l'adulte relais, c'est un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité et notamment qui est beaucoup utilisé pour faire de la médiation. Ce que disait d'ailleurs la dame qui est intervenue avant, Anne-Sophie, on peut déployer plein de politiques publiques dans nos territoires. Je vais prendre par exemple à Allonnes, la médiathèque est gratuite. C'est pas pour ça qu'il y a une partie de la population qui va venir spontanément. Et donc on a besoin de réfléchir et de travailler sur, au plus près des habitants pour les accompagner à travers leur enfant, à travers des actions diverses et variées. Donc c'est un rôle essentiel. Ça permet de vivre et faire des choses ensemble. Alors le problème qu'on a eu en fin de dernier trimestre 2024, c'est que ceux qui sont en cours continue, mais il y a une rupture, parce qu'il n'y a pas de ligne budgétaire, de ceux qui étaient en fin de mission. Et donc, quand on a redemandé ou les associations ou les collectivités, on a eu une fin de non-recevoir et ça a mis quand même en tension les associations, mais en difficulté parce que ça a parfois stoppé un travail remarquable. Et quand on sait que dans ces territoires, il faut donner du temps au temps, c'est de la patience. C'est-à-dire que la médiation, on met pas 100 personnes, c'est à l'unité, c'est l'humain, tout simplement. Et donc oui, j'ai cru comprendre que là, il y a une modification dans ce qui va être présenté dans le budget 2025, si ça se confirme, nous en félicitons parce que c'était une rupture douloureuse et pour les associations et pour les habitants qui étaient concernés par ces mesures.
Parce qu'on précise effectivement que l'ambition n'est pas de les supprimer mais de ne pas renouveler celles et ceux qui arrivent en fin de mission. Tout de même, sur plusieurs années, ça revient à éteindre ce programme, Juliette Méadel.
Alors, d'abord, vous dire que c'est des emplois essentiels et que nous en avons conscience au gouvernement et qu'avec le Premier ministre et le ministre chargé des collectivités locales, nous avons défendu et décidé qu'on maintiendrait ces adultes relais et qu'il n'y aurait pas de suppression de postes et que le financement, si le Parlement veut bien voter le projet de budget, serait pérenne. Donc, au lendemain du projet de loi de finances, la loi de finances pour 2025 est votée dans les termes qui sont ceux soutenus par le gouvernement, il n'y aura pas de suppression d'adultes relais.
Donc, vous souhaitez bien maintenir, en tout cas, c'est l'ambition du
Absolument.
Gouvernement. On verra bien comment évoluera l'examen du texte, mais en tout cas, vous souhaitez maintenir les 5000 postes
bien
d'adultes
sûr.
Relais.
C'est indispensable. C'est un budget de près de 100 millions d'euros sur le budget de la politique de la ville. Et là, il y a une rallonge nécessaire de 5 millions d'euros pour laquelle je suis en train de me battre et que j'espère obtenir.
Au-delà, Juliette Méadel, que dire dans les textes tels qu'ils sont écrits pour l'heure, tels qu'ils sont examinés de retour à l'Assemblée nationale, que dire du budget justement qui est dévolu à la politique de la ville ? On entend, on comprend qu'il va être diminué par ailleurs.
Alors tous les budgets sont diminués. Le budget tel qu'il avait été initié au premier projet de loi de finances pour 2025, effectivement, avait des prévisions à la baisse, assez dures pour la politique de la ville. Sur le budget là, que je défends. J'espère que si les parlementaires le votent, nous maintiendrons à peu près le même budget qu'en 2024. C'est-à-dire que nous allons stabiliser le budget, éviter la baisse. Si nous y parvenons et si les parlementaires votent en CMP, c'est-à-dire demain, et si c'est confirmé au Sénat, nous aurons maintenu le budget de la politique de la ville. Mais très sincèrement, c'est les parlementaires qui vont décider maintenant. Le gouvernement a soutenu, maintenant c'est aux parlementaires de décider.
Une réaction, Gilles Leproux.
Nous, on a rencontré Madame la Ministre pour lui porter, y compris nos propositions, qu'il y avait besoin de conforter, voire d'amplifier. Bon, là, ça s'orienterait vers un maintien. Mais dans le même temps, dans nos villes, et ça revient à ce qu'on disait sur le droit commun, lorsqu'il y a des baisses de financement dans d'autres ministères, on fera référence peut-être à un moment donné, là, au budget des sports, ça pénalise également nos territoires. Parce que comme on a, c'est des territoires, il y a déjà beaucoup d'inégalités. Donc quand ça baisse, les conséquences sont encore plus durement ressenties dans nos territoires, objectivement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un œil attentif sur l'ensemble de ces questions-là. Alors effectivement, moi je préside Ville et Banlieue, d'une association pluraliste, donc on a des avis différents, mais on travaille dans l'intérêt des habitants. Mais nous sommes très attentifs, et donc quelles que soient nos sensibilités, nous souhaitons que effectivement il y ait ce coup de pouce sur toutes les lignes budgétaires, pour continuer par exemple les colos apprenantes, les quartiers d'été, les cités éducatives, je crois qu'on va l'évoquer, vous voyez, parce que ces dispositifs qui ont fait la preuve de leur efficacité, eh bien, comme ça, ce qui marche, amplifions.
Je voudrais que l'on évoque ensemble maintenant ce qui s'est passé, ce qui a manqué aussi de se passer à la suite des révoltes qui ont suivi la mort de Naël, tué par un policier en juillet 2023. Et sur ce point, je voudrais qu'on écoute la voix de l'un de vos prédécesseurs, Juliette Méadel. Il s'appelle Olivier Klein, il est ancien maire de Clichy-sous-Bois. Il a été ministre délégué chargé de la ville et du logement, c'était en 2023.
Il y a un drame que l'on n'oublie pas, la mort d'un jeune homme de 17 ans, sur lequel le recueillement, la tristesse, le deuil doit être suivi du calme. Et donc, moi, j'en appelle à la responsabilité des parents, notamment, pour que le soir, ces jeunes soient chez eux, parce qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Et donc, on doit trouver toutes les solutions pour aller vers ce retour au calme qui est nécessaire pour ces quartiers, qui est nécessaire pour l'image de ces quartiers et pour l'apaisement, parce que la République et les quartiers populaires ont droit à l'apaisement.
Avec un an et demi de distance, Juliette Méadel, quel regard vous portez sur le discours qui a été porté, exprimé par votre prédécesseur et qui pointait du doigt, alors en l'occurrence c'est l'expression qui est la bonne, qui pointait du doigt notamment les habitants de ces quartiers, les parents, les jeunes. Est-ce que c'est à eux que venait la responsabilité de ces révoltes ou de ces émeutes, selon le terme choisi ?
Ce qui est certain, c'est que dans les quartiers politiques de la ville, mais comme ailleurs aussi, un enfant qui est laissé sans éducation, qui est un peu livré à lui-même, ou qui n'est pas bien pris en charge par ses parents ou par ses frères et sœurs, c'est un enfant qui tourne mal. Les enfants ont besoin pour grandir de limites, ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc c'est du temps, c'est de la présence, c'est de l'envie d'éduquer. Au moment des révoltes de Naël, ce qui était caractéristique et très spécifique à ces révoltes, c'était que c'était des jeunes qui étaient dans la rue, des jeunes adolescents. Donc la révolte a été assez violente, mais elle n'a pas duré longtemps, comme souvent quand il s'agit de révolte de jeunes, puisqu'au bout de quelques jours, ça s'est arrêté. Mais qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Donc il ne s'agit pas de pointer les parents ou autres, parce que dans les parents, vous retrouvez souvent des familles monoparentales, des femmes seules, 95%, qui travaillent la nuit. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un adulte dans la pièce. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller pour que dans ces quartiers-là, il y ait une présence. Si c'est pas les mères parce qu'elles travaillent, il y a des adultes. Moi, je suis en train de travailler parce que c'est des quartiers qui vieillissent aussi. Et donc, il y a des grands-pères et des grands-mères qui ont envie d'aider, qui sont là, qui sont bénévoles. Ça peut être ces dispositifs-là. Il y a bien sûr les adultes relais, il y a les associations, il y a les élus locaux. Et il y a des dispositifs d'entraide aussi. Et donc, le rôle de la politique de la ville, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un enfant ou un ado qui soit livré à lui-même. Parce qu'un enfant, ça a besoin d'être encadré, ça a besoin de présence. Donc, faut s'occuper d'eux. Après, la question de la responsabilité des parents, bien sûr. Mais peut-être qu'il faut aussi faire de la guidance parentale. C'est-à-dire qu'il faut peut-être apprendre à être parent. C'est pas un métier facile, hein. Je peux vous le dire. Moi, j'ai 4 enfants, c'est pas un métier facile. Quand on est très précarisé, qu'on est fatigué, qu'on peut pas s'occuper de ses enfants, parce qu'on bosse la nuit et parce qu'on est seul, qu'en plus on travaille, on vit dans un quartier difficile avec des trafiquants de drogue en bas de la maison qui vous menacent. Oui, il faut des aides. Et à ce moment-là, il faut effectivement des aides publiques.
Gilles Leproux, est-ce que c'est une politique publique que d'appeler à la responsabilisation des parents notamment ?
Moi, j'ai encore en tête cette période douloureuse de fin juin, début juillet 2023. J'ai passé 4 nuits de minuit à 4 heures du matin auprès des habitants, voyant les conteneurs brûlés, voyant des voitures brûlées, voyant y compris le bureau de tabac de la ville, dans le centre commercial brûlé. C'est terrible, c'est de la désespérance, c'est violent, tout simplement. Et encore aujourd'hui, les gens ont eu du mal à s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait fait à Villers-Banlieue un tour de France avec sur support la dictée pour tous, où on avait fait exprimer les gens sur ces questions-là. Et on en a fait d'ailleurs on a recueilli les témoignages qu'on a donnés au président de la République en lui demandant de nous recevoir. Moi, j'écoutais Olivier Klein, qui est un vice-président de l'association Villers-Banlieue, donc je le connais bien, Olivier. Je trouve que son discours était trop stigmatisant, trop sécuritaire. Parce que, oui, il y avait cette dimension, il fallait bien que l'ordre revienne. Mais si on ne comprend pas les causes qui ont amené, alors il y a eu la mort du jeune Naël, mais qui viennent de plus loin, quoi, sur les questions de précarité, sur les questions de besoin d'accompagner. Vous savez, moi j'entends des fois des gens qui font des remarques, ouais, là, tel doux le parent ne s'occupe pas, mais quand tu pars le matin à 6 heures du matin pour faire le nettoyage, et que c'est le grand frère ou la grande sœur qui s'occupe des plus petits frères pour les emmener à l'école, bon, merci les donneurs de leçons. Donc c'est pour ça qu'on a besoin tout simplement de services publics. Aux côtés desquels des associations peuvent aussi faire un beau travail, mais il faut c'est ces deux piliers qui tiennent au quartier. Et c'est pour cela que on a besoin, y compris que d'être financé suffisamment pour déployer des politiques locales au plus près des habitants et permettant aux habitants eux-mêmes d'élaborer les propositions.
Est-ce que vous, depuis plus d'un an et demi, depuis ce mois de juillet 2023, vous avez vu des choses concrètes sur le terrain qui s'étaient transformées, qui avaient évolué ? Est-ce qu'il y a de nouvelles politiques publiques qui ont émergé de cette crise-là ?
Non, ce qu'on peut dire, c'est comme il y a eu des dispositifs qu'on fait, qu'on a pu réaliser les réparations, aussi bien sur les domaines publics que privés, le plus rapidement possible, parce que c'est aussi traumatisant pour les habitants. Mais après, sincèrement, enfin, je dirais non. Alors on a eu d'ailleurs le CIV de Chantoux-les-Vignes en octobre 2023. Ensuite, après, on l'a
le
dit
CIV,
à Madame la Ministre.
Vous
avez raison. Conseil interministériel des villes, qui permet de faire travailler tous les ministres sur cet objectif commun de la politique de la ville. Et on l'a dit à Madame la Ministre. Il y a un prochain CIV qui est en perspective. On a dit la première des choses qu'il faut faire, faut évaluer qu'est-ce qui a été fait des mesures prises, parce que pour l'instant, pour un certain nombre, il y a les cités éducatives, ça fonctionne, et il y a eu un élargissement. Donc ça, c'est un point positif. Mais sur le reste, c'est plus compliqué. On avait des cités de l'emploi. Bon, sans d'évaluation d'ailleurs, elles ont été supprimées, avec les financements avec. Aujourd'hui, on est un peu sur ces questions-là, on se débrouille au moins mal dans nos territoires. Vous voyez, donc, non, il n'y a pas eu... Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas les réponses suffisantes, notamment cette attention particulière en direction des ados, parce qu'effectivement, c'est un élément nouveau. C'est la jeunesse, quand même, pour un certain nombre de ces jeunes qui étaient dans la rue. Et donc, il y a besoin, effectivement... Alors, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'éducation, c'est pour les plus petits, le périscolaire, le méridien, mais pour ça, il faut qu'on ait les moyens, les associations, les villes, de mener ces actions concrètes.
On se rappelle, Juliette Méadel, des annonces nombreuses qui avaient été formulées à l'époque par les pouvoirs publics, des comités, je n'ose dire Théodule, nombreux également, qui avaient fleuri à l'époque. Certains sont encore en vie par ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, là aussi ? Quelle politique publique a vu le jour ?
Bon, il y a eu une mobilisation, on peut dire. Gilles Leproux était présent. Moi, j'y étais pas dans ces fonctions-là à l'époque. Au moins une prise de conscience. C'est-à-dire qu'au lendemain d'une émeute, tous les ministres se retrouvent autour d'une table en se disant il faut quand même qu'on s'occupe de ces quartiers. Bon, on peut dire que c'est déjà un premier point. Bon, c'est vrai aussi que depuis 2023, il y a eu la dissolution, il y a eu des remaniements. Donc, on peut pas considérer qu'il y a une stabilité de l'action publique. Et puis, avec un manque probablement de priorisation donnée à cette politique-là. Humble face à cette action. Hein. C'est pas facile d'avoir des résultats vite. La politique de la ville, c'est long. Vous voyez, l'éducation des enfants dont je vous parlais. Tiens, par exemple, les cités éducatives, qui sont une remarquable idée que le président de la République avait lancée. C'est bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est dire, on prend un enfant de 0 à 25 ans, et on s'en occupe à travers l'école, à tout point de vue. La santé, l'accompagnement social, l'orientation professionnelle ensuite.
Dans « on s'en occupe », qui est « on »
Eh ben, ça commence par l'école, qui repère, parce que c'est à l'école que tout se joue, qui met en lien avec des associations qui vont venir dans l'école pour avoir des activités périscolaires, donc les activités à côté de l'école, et puis éventuellement un repérage sur le plan social. Et ce sur, lequel je veux travailler maintenant, c'est le sanitaire, la santé, et en particulier la santé mentale. Après le Covid, on a mis au jour le fait qu'il y avait des gros problèmes de santé mentale chez les jeunes, avec un taux de suicide qui augmente, des troubles psychiques même chez les jeunes enfants. Donc il faut utiliser ces cités éducatives qui disent en fait tous les services publics doivent se parler pour mettre l'enfant au centre. Et moi, je veux qu'on rajoute la prise en charge dès les premiers instants, dès la petite enfance, des problématiques psychiques et sanitaires, parce que 1 euro d'investi sur un enfant avant 10 ans, c'est 100 euros d'économiser après. Et donc, c'est là qu'il faut investir.
Je voudrais vous lire simplement, et je vais vous faire réagir, le témoignage d'un auditeur que nous venons de recevoir par email. Il explique vivre à Mantes-la-Jolie, une ville extrêmement bien pourvue en matière d'équipement, bien mieux que ce que l'on peut avoir quand on vit en périphérie de Mantes-la-Jolie, dans les campagnes des alentours notamment. Pour autant, ces efforts financiers considérables de la ville et in fine des contribuables n'empêchent pas le saccage régulier et la délinquance dans ce grand quartier. Gilles Leproux, cette question de la sécurité, de la délinquance, comment est-ce que vous l'abordez? Vous êtes un élu de terrain, vous êtes aussi communiste. On sait que cette question de la sécurité, elle pose question. Les façons de l'aborder, de l'appréhender, notamment quand on est un élu de gauche. Vous, comment est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est une priorité? Comment est-ce que vous la qualifiez?
La première chose, c'est que le droit à la tranquillité, il doit être traité au même niveau que le droit à l'éducation, à la santé, aux pratiques sportives, etc. C'est un droit. Si on n'a pas le droit à la sécurité, on ne peut pas vivre ensemble.
Mais vous appelez ça le droit à la tranquillité.
Ah oui, le droit, bah oui, c'est un droit. Ah oui. Pour moi, c'est le service. Et, et ce qui porte de ça, porteur, c'est le service public régalien qui est la police et la justice.
Donc on est. Je réagis, c'est pas sur le terme de droit qui est tout à fait légitime, mais sur celui de tranquillité.
Ouais, tranquillité, sécurité, mais les deux. Je pense qu'il faut associer les deux parce que, y compris quand on discute avec les gens, on voit bien que il y a à la fois le point de deal qui sont des réalités, mais parfois il y a aussi la présence le soir tardive de certains qui font un peu de bruit. Donc vous voyez, on est sur deux. Cas de figure qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il faut travailler. Donc, par exemple, moi, la semaine dernière, on a sur Allonne, on le fait deux fois dans l'année, on a mis 90 personnes, des invités, une réunion publique sur cette question, sur cette thématique, avec la représentante de la police nationale, de la justice, d'un service de médiation, enfin, des éducateurs de rue, vous voyez, donc, parce que c'est une coproduction, tout ça, comme le reste des politiques publiques. Et je pense qu'effectivement, il faut y être très attentif, parce qu'on voit bien que certains, je nommerai pas ici, s'engouffre sur ces questions qui sont essentielles pour dévoyer, pour stigmatiser, pour montrer du doigt telle ou telle partie de la population. Donc oui, mais là encore, il faut les moyens nécessaires pour permettre de trouver les réponses posées. Avec une petite, permettrez Madame la Ministre, pour revenir sur la cité éducative.
Vous avez une petite nuance.
Oui, non, nous on est partisans, hein. Mais c'est pas le président de la République, hein, c'est pas une idée du président de la République. C'est une idée, c'est après l'appel de Grigny.
L'appel de Grigny, on rappelle, hein, c'est les 115 après, qui sont réunis en 2017 pour lancer l'alerte
avec
sur les
des associations, parce qu'il y a eu un été chaud.
Pour 2015 et après les attentats, surtout.
Non, 2017, après 2017, oui. une loi de finances rectificative après l'élection du président de la République, où il y avait eu une coupe sombre dans les budgets politiques de la ville et dans les adultes aux relettes, déjà à l'époque.
L'histoire donc, est retracée, mais donc sur l'appel voilà, de Grigny.
On a travaillé pendant plusieurs mois. Et il y avait un rapport qui avait été demandé à Jean-Louis Borloo, et c'est une proposition éducative qui sont venues des territoires, qui étaient dans le rapport Borloo, et qui a été reprise effectivement ensuite par le gouvernement. Je disais parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que nous on pense que on a besoin de l'État, particulièrement engagé, mais dans le même temps, il ne faut pas que ce soit une politique qui soit descendante. Il faut que ce soit une politique qui s'appuie pleinement sur tous les acteurs du territoire, parce que là où on fait ça, on voit que c'est ça qui est couronné de succès et d'efficacité.
Juliette Mazel, sur cette question de la sécurité qui, dans le champ médiatique, prend une place importante, comment vous, est-ce que vous l'abordez, cette question?
Mais c'est la première chose dont parlent les habitants des quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire que quand vous arrivez, j'ai fait beaucoup de déplacements et je vais continuer à en faire, moi j'arrive pour leur parler des ascenseurs, de la propreté, etc. Et eux, d'abord, ils me parlent, à juste titre, du trafic de drogue, des trafiquants qui prennent et qui réquisitionnent les parkings, des ascenseurs qui sont pris pour stocker de la drogue, des points où on ferme telle et telle porte parce que les trafiquants de drogue veulent contrôler les flux. Donc, ils parlent de ça. Et donc, c'est le premier sujet. Et c'est pour ça que Quand le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice disent « on va s'attaquer au narcotrafic », moi je dis « merci ». Qu'est-ce que je dois faire moi en tant que ministre de la Ville ? C'est tout le volet tranquillité, sûreté dont parlait tout à l'heure Gilles Leproux, parce qu'en fait, il y a un rôle pour les médiateurs, pour les adultes relais, il y a aussi un rôle de présence qui n'est pas de la sécurité, mais qui est de la prévention, de l'information, de la médiation, ce qu'on appelait dans le temps la police de proximité qui jouait ce rôle de présence. Ça, c'est très important et c'est là-dessus que je veux travailler parce que on n'a pas forcément besoin que de policiers pour réprimer, on a aussi besoin d'adultes, de police municipale peut-être, qui viennent faire de la prévention et assurer une présence.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Ismaël, il a 16 ans, il était interrogé en 2023 par la fameuse émission de France Culture Les Pieds sur Terre, il habite le quartier des Neiges, au Havre, en Seine-Maritime.
Je m'appelle Ismaël Verchino, j'ai 16 ans, j'habite ici depuis que je suis né. Pour moi, c'est sûr, au bout d'un moment, il n'y aura plus de quartier et tout ça, ils vont tout détruire. Ils ont déjà commencé à détruire des immeubles, déjà il y a longtemps, ils ont enlevé le club de foot. Ça commence à être bizarre. Après, vous fermez les écoles et vous détruisez les immeubles. C'est sûr que ça va se passer comme ça. Moi, j'aime pas ça. J'aurais bien aimé que ça reste comme avant, tout ça. Il y a du monde, une bonne ambiance. On fait vite le tour. Hein. En fait, on fait tout le temps la même chose. Quand on sort, soit on va manger, soit on traîne nos ducks, mais il n'y a rien d'autre à faire.
On fait que ça ou du scooter.
Il y a la plage.
Il fait tout le temps froid, ouaf. Dans mon été, il fait froid.
Qu'est-ce que vous dites, Gilles Leproux, à Ismaël, comment est-ce que vous réagissez même avec ce récit, ce témoignage qui raconte, dans le fond, le désinvestissement de l'État progressif sur plusieurs années, même sur plusieurs décennies?
Je crois qu'Ismaël, il donne son avis de jeune tel qu'il ressent les choses. Et puis, on aura interviewé un jeune dans une autre ville de banlieue, peut-être qu'il aurait eu des avis un peu différents, vous voyez. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on, pour rénover un quartier, on démolit des bars, ça peut de loin sembler, alors ça peut être utile, hein. On l'a fait sur Allonne, donc il y a des moments où il faut le faire, mais en même temps, il faut jamais oublier qu'il y a des femmes et des hommes, des jeunes qui ont passé une partie de leur vie. C'est leur souvenir. C'est traumatisant, vous voyez. Donc c'est redessiner une ville. C'est pour ça que je dis, c'est un enjeu important.
Ça coûte forcément émotionnellement de détruire et rebondir.
Bien sûr. J'ai en tête là, le dernier bâtiment qui a été une barre qui a été abattue sur Allonne. Ouais, les gens venaient voir au fur et à mesure. Des gens qui avaient habité là, qui habitaient plus à Allonne d'ailleurs. Mais c'était pour une partie de leur vie qu'ils s'en allaient. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que la question d'associer du début à la fin les habitants est déterminante. Parce que si on fait autrement, ça peut pas bien passer. Et je pense qu'ils ont raison d'ailleurs. Donc... Ça nous interpelle, des fois ça nous bouscule, mais on est là pour être... On n'a pas toujours raison, les élus. Et donc, il faut aussi qu'on entende encore plus, moi je trouve, plus fortement, et alors plus fortement, ces attentes, ces appels parfois de détresse, au secours. Mais dans le même temps, il faut aussi certainement qu'on imagine d'autres formes d'intervention de citoyens, parce que de démocratie participative, pour prendre un mot parfois un peu galvaudé, parce que nos réunions, souvent... on a un peu de monde, mais on a souvent les mêmes. Ils ont raison. Alors, je remercie ceux qui viennent, parce qu'on ne va pas les décourager.
C'est bien qu'il y en ait qui se mobilisent, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus qu'il y en ait.
On est en train de s'interroger comment on peut travailler. On a un conseil jeune à Allonne, moi je travaille avec eux pour qu'ils soient moteurs, qu'on les mette, y compris dans des comités de pilotage, qui ne soient pas trop compliqués ou que ce ne soit pas de la parlante en permanence. Voyez. Donc on a vraiment beaucoup à imaginer, parce qu'on l'avait dit à Ville et Banlieue à nos 40 ans, on avait dit la banlieue, elle n'est pas le problème, elle est la solution, faisons République ensemble. Et je pense qu'on pourra le faire avec les habitants eux-mêmes, quel que soit leur âge.
Juliette Medel, sur cette question plus large de la rénovation urbaine, il y a des questionnements nombreux qui entourent l'avenir d'une agence qui s'appelle l'ANRU, qui est l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, qui avait été créée en 2003-2004 sous Jacques Chirac et qui a vocation justement à permettre à investir de l'argent venant de l'État sur cette question de la rénovation urbaine qui a produit des résultats positifs, qui pose aussi quelques questions justement sur la stabilité dans le temps, sur la question aussi écologique. Vous, quel est votre positionnement? Est-ce qu'il faut maintenir cette agence et son action dans le temps?
Bon, d'abord dire quand même que cette agence, c'est vrai que c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais elle a permis de réhabiliter 400 000 logements et puis elle a aussi permis de reconstruire 164 000 logements. Donc c'était énorme quand même, le bilan.
Dans plus de 1000 quartiers français.
Voilà, donc sur le plan urbain, c'est important, il faut le souligner. Maintenant, ce qu'avait d'ailleurs voulu Jean-Louis Borloo, qui me semble absolument indispensable, c'est de ne pas distinguer le bâti de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, c'est précisément s'occuper des habitants. Et s'occuper des habitants, quand on programme en effet un projet de démolition, c'est un traumatisme fondamental, mais pas que pour les quartiers politiques de la ville, pour vous et moi. Quelle que soit votre maison, sa couleur, sa forme, votre appartement, on s'attache, humain, nous, à nos lieux de vie. Donc si vous touchez un lieu de vie, même si vous voulez le transformer pour en faire un truc plus beau, ben vous touchez l'intime. Donc l'ANRU, ça ne peut pas être que du bâti. Ça doit s'appuyer sur les élus, les humains et les perspectives de prise en charge plus humaines. Mais la politique de la ville, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut embarquer les habitants et considérer que ce sont les habitants des quartiers qui doivent faire leur ville. Alors évidemment, avec le rôle de l'État, les élus pour encadrer tout ça, mais c'est à eux de s'approprier les quartiers. Et donc, on ne peut pas dire on s'occupe que de l'urbain. On doit absolument penser en plus les usages. On est en train de travailler sur la reconstruction de Mayotte. Et donc, moi, je me bats pour que Mayotte soit en QPV. Et vous voyez, par exemple... En quartier prioritaire de la ville. Quand on pense reconstruction d'une école from scratch, puisque Mayotte, hélas, tout a été détruit.
Depuis le début.
On doit concevoir que la reconstruction, on va la faire pour en faire une cité éducative, c'est-à-dire pour prendre en charge des enfants précarisés. Et vous la reconstruisez pas de la même façon.
Très bien, mais vous ne m'avez pas répondu sur l'ANRU, sur son avenir, sur l'avenir de cette agence nationale de la rénovation urbaine. Est-ce qu'il faut revoir la substance de ses missions ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire en partie, ou est-ce qu'il faut même revoir son existence même ?
Oh, mais l'ANRU, vous savez, dans ses statuts, elle repose sur la politique de la ville. C'est ce qu'avait voulu Jean-Louis Borloo. Donc, il n'y a pas à revoir. Elle a une vocation urbaine et de soutien des populations avec la politique de la ville. Donc, je ne crois pas que ça doive être revu. En revanche, oui, il y a des interrogations aujourd'hui sur la structure financière. C'est certain. Comme on est dans un moment où les budgets est quand même serré, la dotation de l'ANRU, il faut se battre. Hein, je me suis battue, mais il va falloir effectivement la pérenniser. Est-ce que si on continue comme ça, on pourra dans 10 ans la pérenniser à ce niveau-là? C'est la question que nous allons nous poser avec tous les acteurs de la politique de la ville. Et c'est aussi la question qu'il faudra poser au ministre des Comptes publics.
Voilà, la balle est donc dans son camp. Gilles Leproux, en quelques mots, les relations que vous avez avec cette agence, l'importance aussi de sa mobilisation au-delà de votre commune, sur la rénovation urbaine dans le pays?
Elle a fait la preuve, l'agence, de son efficacité, parce que les quartiers quand même ont beaucoup changé quand on va les visiter, parce qu'il y a du bâti, mais aussi des espaces publics. Il y a également des équipements publics, parce qu'une ville, il y a des gens qui y habitent, donc il faut qu'ils vivent bien dans l'appartement, qui ne payent pas trop cher de charges, donc y compris tout ça, c'est des questions de relever le défi climatique. Mais également, il faut des équipements culturels, sportifs. Et l'ANRU a permis, dans nombre de communes, de pouvoir faire plus rapidement ce qu'aurait demandé beaucoup plus de temps, donc dans l'intérêt des habitants. Donc nous, on est même pour, à Ville et Banlieue, un ANRU pérenne. Pour pas qu'on ait un début, un fin, 1, 2, 3, 4, où au milieu il y a un temps mort, et donc ça fait durer les dossiers au détriment des habitants.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion. Juliette Méadel, vous êtes ministre déléguée chargée de la ville, élue locale à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Gilles Leproux, maire communiste d'Allonne dans la Sarthe. Depuis 2008, vice-président du Mans Métropole en charge de la politique de la ville et président de l'Association des maires villes et banlieues de France. Merci à tous les deux d'être venus dans Question du soir.